On va parler d'une série web que j'ai découverte sur la plateforme TV5+. Plusieurs fois, je vous parle de TV5+. C'est vraiment des choses le fun à aller voir là-dessus. Alors, moi, ce que j'ai vu, ça s'appelle You Arling. Puis on va découvrir pourquoi ça s'appelle You Arling. Et puis, on va parler avec le créateur de la série, Danny Vermette, et l'actrice qui joue le personnage principal de la deuxième saison, qui s'appelle H. Elle s'appelle Elcelia Gouin-Arsenault. Vous la connaissez. Elle a fait beaucoup de théâtre. Elle a fait beaucoup de séries. Alors, on aura la chance de discuter de tout ça. Alors, cette série, c'est ici au sommet des visionnements francophones avec la première saison et donc revient en force sur TV5+. Le volet s'appelle Algorithme amoureux. On y explore le deuil amoureux, la colocation, les applications de rencontre, les maudites applications de rencontre au sein de la communauté queer, avec un ton que je trouve lucide et sensible et drôle. Bienvenue tous les deux à cette émission. Bonjour, Dani.
Allô.
Bonjour, Célia.
Bonjour.
Alors, je vais commencer avec Dani, mais tu pourras intervenir, Célia. L'expression « you arling ».
Ouais, c'est une blague au sein de la communauté lesbienne qui dit « qu'est-ce qu'une lesbienne emporte à sa troisième date? » Un you-all.
Oui, ben oui, c'est ça. Ben, j'osais pas faire la blague, je la connaissais, mais je me dis « ce serait pas un homme gay qui va faire cette blague-là, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire. » C'est quoi l'inspiration de la série? You-alling, oui.
You-alling at large.
At large, oui.
Ouais. Au début, c'était vraiment... Juste le fait de vivre des ruptures amoureuses. T'sais, c'était vraiment ça, la saison 1. Puis ensuite de ça, c'est la rencontre de Célia qui a fait en sorte que j'ai voulu explorer plus loin. Puis moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais sur les maudites applications, comme tu dis. Fait que j'avais beaucoup d'histoires à raconter par rapport à ça.
Célia, toi, les applications de rencontre, tu connais-tu ça?
Oui, j'ai connu ça pendant... Mais moi, c'était une petite fenêtre de ma vie, quand
ah
même,
oui?
Les applications.
Ouais, ah, parce que t'es heureuse et amoureuse. Et...
Oui, exactement.
Ah, on t'aime plus.
j'ai rencontré quelqu'un en vrai, pas sur les applications. Fait que
ah, ouais.
Je suis pas un exemple de bonne expérience.
Mais t'en entends parler?
Oui, énormément.
Est-ce que ça te parle, ce genre de sujet-là, en tant que personne? Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie de la communauté?
Oui, on
parce
peut dire ça.
Parce que t'as écrit quand même qu'en fantôme. Oui, co-écrit qu'en fantôme,
oui. Exact, oui, complètement. Puis oui, ça fait, ben, je veux dire, ça fait partie de ma vie et de la vie de tous mes amis, toutes mes amies. C'est la façon de rencontrer la plus efficace aujourd'hui, ou du moins la plus accessible. Fait que complètement,
ouais,
moi, l'écriture, dans le sens, on s'en parlait, mais c'était notre expérience à nous deux, au final, la série, là, complètement.
La première saison, donc, ça jouait sur l'urgence de se loger après une rupture amoureuse. Puis la deuxième va dans ce qu'on appelle la froideur des algorithmes. Je pense que le terme est vraiment là. C'est quoi qui t'a donné l'envie de décortiquer ce phénomène-là, propre aux relations queer, puis de l'exposer au grand écran, finalement, en fait, au petit écran?
C'était pas tant propre aux relations queer, autant que propre à notre génération, je pense.
Oui.
Puis au fait de se sentir désaffecté, puis un peu de rencontrer des gens puis de pas être capable de rentrer complètement en contact avec eux de manière organique quand ça se faisait par les applications. Fait que c'était vraiment à propos de ça. Puis j'avais lu un texte par rapport au fait que le fait d'être sur des applications de rencontre, c'était comme faire une loterie. Mmh. C'était comme jouer à la loto. Puis que ça faisait le même sentiment, la même release d'endorphines dans le cerveau de swiper les applications. Puis ça, moi, ça m'avait vraiment... Ça m'avait inspiré, dans le fond.
Bien, il faut dire que les applications de rencontre, ils veulent pas que tu trouves quelqu'un parce qu'ils veulent que tu restes sur l'application de rencontre. Ça, des fois, on comprend pas ça, mais c'est plus payant pour eux autres que tu restes là-dessus que de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est à y penser. Et moi, Célia, ton personnage, donc, dans la première saison, c'est un personnage de soutien. Tu deviens le personnage principal. Comment tu abordes cette vulnérabilité que ce personnage, qui est vulnérable, mais je pense qu'il est fort tout ça en même temps?
Oui. C'est une belle question. Ben, sa vulnérabilité, je pense que c'est la vulnérabilité que j'ai connue quand on s'expose aux applications puis qu'on rencontre des gens pour la première fois. Fait que c'est quelque chose que je connais, mais c'était une sensibilité aussi que j'observe autour de moi, des fois dans ma communauté, mais mm-hmm. qui est des fois un... Il y a ce côté où, avec nos amis, notre famille choisie, c'est un peu ça aussi la série, hein, c'est la
ouais.
famille choisie...
Ça, c'est très beau, d'ailleurs. Je trouve que
ouais.
ça, c'est vraiment beau. Puis ça fait du bien de voir ça.
Puis la confiance qu'on peut gagner avec notre famille choisie, mais qui peut tomber, tu sais, pendant une date parce qu'il y a quelque chose qui a été dit ou mm-hmm. un texto qui n'a pas été répondu, qui fait tout tomber ça, tu sais. Puis qui ramène à une certaine honte, des fois, aussi.
Ouais.
C'est ça que je voulais dire par cette vulnérabilité-là, des fois, qu'on rencontre, mais qui se rattrape tout le temps avec la famille choisie.
Je vais pas divulgâcher, mais il y a un moment donné, ton personnage, c'est pas une femme ou une fille parfaite, hein, parce qu'elle fait des choses que je trouve pas très, très gentilles. Hein. Elle rencontre quelqu'un qui lui plaît pas, mais continue de dater cette personne un bout de temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent aussi dans la communauté, ça?
Ben ça, je pense que ça appartient à l'univers du dating. Je pense que rapidement, on devient des fonctions. Les gens deviennent des fonctions pour nous. Puis c'est ça aussi que la série
Quelle
parle
belle
de.
Analyse, ouais.
Comment on. Ça devient un objet de désir ou une fonction. Cette personne-là, je ne suis pas amoureuse, mais elle m'empêche de rencontrer la solitude. Fait que je la garde le temps que ça m'arrange. Il y a ça aussi, ouais. Je pense, qui est violent dans tout ça.
Je trouve ça le fun parce que ce personnage n'est pas parfait, mais on l'aime, c'est ça qui compte, là, puis on l'aime dans ses imperfections. On parle d'une série où les épisodes durent à peu près 10 minutes. Ça demande la rigueur. Comment on s'y prend? Hein, parce que raconter une histoire en 10 minutes, là. Hein, évidemment, les gens ont comme 22 minutes, une série normale, là. Normal, une série quotidienne.
Honnêtement, quand j'écris avec le temps qu'on me donne, puis il m'est arrivé d'avoir des situations où je me disais, mon Dieu, j'aimerais ça avoir plus de temps, mais en même temps, la façon dont je le voyais, c'est comme écrire un long métrage. Tu sais, c'est le même temps qu'écrire un long métrage, puis je me suis juste dit, c'est un long métrage divisé en 8, puis je l'ai vécu comme ça, fait que j'ai essayé de respecter le barème du temps, puis de prioriser ce qui était important là-dedans. Là.
Moi, j'ai dévoré cette série-là. J'ai écouté en une soirée les deux saisons. C'est quand même pas mal. Hein, quand 80 minutes deux fois, ça se fait.
Oui, ouais, ça se fait bien.
Ça se fait bien. À part, il y a quand même des messages, il y a quand même des pauses publicitaires dans TV5. Il faut que je dois avertir les gens. Oui, des fois, ça arrive au mauvais moment, mais bon, ça, c'est pas votre problème. La série, comme j'ai dit, a vraiment touché l'univers télévisuel des francophones. Mondial, là. Ça a été écouté partout dans le monde. Qu'est-ce qui rend cette histoire qui est d'abord fondamentalement queer, mais qui touche tout le monde finalement?
Moi, j'ai l'impression que, ben, premièrement, il y a ça. Il y a le fait que tout le monde vit, ou presque tout le monde vit des relations amoureuses.
Ouais.
Fait qu'il y a ça. Je pense globalement, mondialement, tu sais, cette série-là est diffusée dans des pays où l'homosexualité est illégale.
Ouais.
Puis ils ont quand même fait le choix de la diffuser. Fait que je pense qu'il y a aussi ça. Il y a une question de représentativité qui n'existe peut-être pas dans ces pays-là, puis qui a peut-être été chercher des gens dans tous les coins de la francophonie qui n'ont pas accès à ce genre de contenu-là. Fait que je pense que pour le côté queer, il y a ça. Puis le côté universel, ben, on est tous humains.
Une troisième saison peut-être? On ne sait pas.
Si TV5 le veut bien, moi, je suis prêt.
C'est là j'aimerais parler de toi un petit peu. Oui. Parce qu'on t'a vu, on te voit quand même, tu commences à être assez connu, mais tu nous as éblouis dans la pièce Corps fantôme. Je le dis, moi, je l'ai vu. Je le dis, c'est, moi, tu m'as ébloui, puis beaucoup de personnes qui ont vu cette pièce-là. Cette pièce-là relate donc la violence, la répression policière des années 80-90 envers les communautés queer. Moi, j'y sens de l'engagement de ta part, parce que tu as quand même contribué à l'écriture de cette pièce.
Ouais. Oui, je fais partie des 8 personnes qui ont co-écrit la pièce Corps fantôme. C'est un projet de longue haleine. C'est une recherche qui s'est échelonnée sur environ 4 ans. Quand on cherche dans les archives comme ça, puis qu'on rencontre des histoires qui, pour ma part, que j'ai pas connues, c'est sûr qu'il y a un engagement qui se crée parce que tu as l'impression de connecter avec des racines, avec une histoire qu'on t'a pas racontée. Puis qui fait qu'aujourd'hui, ben moi, je peux vivre ma queerness d'une toute autre façon. Donc, c'est sûr qu'il y a un engagement, oui.
Je trouve que chez beaucoup de jeunes comédiens, comédiennes, on pourra en nommer, là, mais on va parler de toi, mais d'être ouvertement queer, de s'ouvrir sur sa sexualité publiquement, est-ce que c'est un atout ou un désavantage? Comment tu vois ça?
C'est drôle parce qu'on m'a posé la question récemment, puis je me disais, mais je pense que j'ai pas fait le choix. Je pense que notre génération, avec les réseaux, il faudrait que je bloque mes réseaux à tout le monde pour pas parler de ma queerness, dans le sens où on travaille tellement intimement avec ce qu'on est, puis les gens, ils sont tellement à la recherche d'authenticité aujourd'hui que je pourrais pas en parler. Je pense qu'avant, c'était un choix pour les acteurs, les actrices de dire ou non. T'sais, la peur d'être castée juste dans un rôle de gay ou de lesbienne. Aujourd'hui, c'est comme... j'ai pas le choix. Puis ça fait partie de moi. Puis Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce que donc je deviens la porte-étendard des rôles queer? Puis je me suis dit, ben si, c'est ça. ça sera ça. J'ai pas honte.
T'sais. Au moins, tu as des rôles, ce qui est pour plusieurs comédiens, comédiennes, c'est assez difficile.
Ouais.
Vraiment, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Donc, je rappelle Danny Vermette, créateur de la série You Alling, et évidemment, Célia Gouin. Attends, tu veux, Célia, je t'en vais. Gouin Arsenault, qui est l'actrice principale, qui joue le rôle H dans cette série, et qu'on voit un peu partout à la télévision. Des projets bientôt? On va te voir où, là?
Du théâtre l'année prochaine à l'Espace Go. Viendrez voir, ouais.
Ah oui, on
Voyage dans l'Est de Christine Angot.
On va aller voir ça. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.